Bonjour, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ce soir, je voudrais vous parler d'une chose que Jésus a dite alors qu'il était sur le point de quitter la terre. Il venait juste de sortir du temple à Jérusalem et ses disciples l'ont fait remarquer, la belle architecture du temple, n'est-ce pas, cette construction extraordinaire. Ah, Jésus regarde et puis il dit... Vous voyez tout cela? Je vous dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. On trouve ça dans l'évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 2. Et puis, il s'assied. Quelques disciples s'assoient aussi, il y en a qui restent debout, et puis il leur parle. Ils sont juste entre eux. Il leur donne un message apocryphe, si vous voulez. C'est-à-dire un message qui est tenu caché, qui est juste révélé à des initiés, parce que le mot apocryphe, c'est ce que ça signifie tenu caché, juste mis entre les mains des initiés. Voilà. Alors ce message, maintenant vous pouvez le lire, parce que les apôtres l'ont écrit, et vous pouvez lire ça dans les évangiles, chapitre 24 et chapitre 25 de Matthieu. Mais pour le comprendre, il faut quand même certaines clés. Et ces clés, elles ont été données à Jean, quand il était à Patmos, et là, Jésus lui a parlé, lui a dicté un livre que nous appelons le livre de la Révélation, ou le livre d'Apocalypse, si vous préférez. Mais encore là, ces clés, elles ne fonctionnent pas parfaitement, elles ne fonctionnent vraiment que quand on les met dans une certaine condition. Elles ouvrent les portes de la connaissance seulement dans certaines serrures. Et il y a une serrure qui a maintenant 4997 ans, c'est le livre d'Enoch, que l'ange Uriel et l'ange Michaël ont révélé à Enoch. Et sans l'analogie entre ce que Jésus a dit là, assis sur le mont des Oliviers, et ce qu'il a dicté à Jean sur l'île de Patmos, et avec ce que l'ange Uriel a dit, a montré à Enoch, eh bien, on ne peut pas comprendre, on peut comprendre des bribes de vérité. Mais on ne peut pas savoir quelle est vraiment la chronologie des faits qui sont annoncés prophétiquement par Jésus dans ces deux chapitres de Matthieu 24 et 25. Ce soir, je vais vous parler d'un détail parmi toute cette fresque prophétique. Et alors pensez-y un peu, voilà, Jésus donc assis, il parle déjà depuis un bon moment. Il s'arrête un moment, puis tout d'un coup il dit, vous savez, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appelle ses serviteurs, elle leur remet ses biens. Il donne à 5 talents à un, à 2 à l'autre, et à 1 ou 3e, à chacun selon sa capacité. Et puis il est parti. Frères et sœurs, l'homme qui part pour ce pays lointain, bien, il représente Jésus. Jésus qui est là, à ce moment-là, était en train de parler, il était sur le point de partir, il était sur le point de quitter la terre. Les serviteurs figurent ses disciples, ceux qui se mettent à son service. Vous voyez, mes frères et sœurs, nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes. Nous avons été rachetés. Nous sommes la propriété de Dieu. Nous n'avons pas été rachetés par l'or, par l'argent, mais par le sang précieux de Jésus. Alors, pourquoi ? Pour que nous puissions vivre, non pas pour nous-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. Ça, on trouve, c'est Paul qui dit ça, hein, dans 1 Corinthiens 6, 20. Vous voyez, mes frères et sœurs, si les hommes ont été rachetés à ce prix infini, c'est parce que les hommes ont de la valeur aux yeux de Dieu. Et en fait, tous les hommes, toutes les femmes ont été rachetés à ce prix-là. En nous rachetant, Dieu s'est acquis la volonté, les affections, l'esprit, l'âme, enfin, de chaque être humain, tous, croyants ou non, tous sont la propriété de Dieu. Et tous sont appelés à le servir. Puis un jour, ben, on aura tous aussi à rendre compte de la manière dont on aura répondu au désir du Maître, au désir de Jésus. Alors voilà, il y a un problème, c'est que tous ne sont pas disposés à reconnaître les droits de Dieu sur eux. Alors la parabole que Jésus nous donne là, dans cette parabole, eh bien, on ne voit que ceux qui prétendent avoir accepté cette mission. Et les disciples de Jésus ont été rachetés, et ils en sont conscients, et ils sont conscients aussi d'être au service de Dieu. Jésus enseigne que le véritable but de la vie, c'est l'utilité commune. Jésus a fait du service, en fait, une loi pour tous. Chacun doit se dépenser pour Dieu, pour ses semblables. Et notre existence consacrée au prochain, c'est ça qui nous met en relation avec Dieu. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on n'aime pas notre prochain. Et on ne peut pas dire qu'on aime notre prochain si on ne sert pas. On ne peut pas dire qu'on aime Dieu si on ne sert pas, si on se sert soi-même. Hein. Alors la loi du service, c'est en fait le chaînon qui nous relie à Dieu et à nos semblables. Le maître, Jésus le dit, le maître nous confie ses biens, c'est-à-dire quelque chose de magnifique, quelque chose dont on doit faire usage pour lui, et il indique à chacun sa tâche, et tous, on a un rôle à remplir dans le plan éternel de Dieu, tous, on est appelés à collaborer avec Jésus pour le salut des gens. Mais je pourrais vous parler des biens de Dieu pendant des heures, mais ce soir, j'ai sur le cœur de vous parler d'un de ces biens très, très, très précieux. Très, très, très précieux. C'est un bien qui est à Dieu et qui nous a donné. Ce bien, c'est le pouvoir de l'influence. La vie de Jésus, elle exerçait une influence terrible sur les gens qui le voyaient, qui l'entendaient. Et puis maintenant, cette influence, elle a grandi et s'est répandue sur toute la terre. Ben, Dieu nous a donné ce talent, le pouvoir de l'influence. Mes frères et sœurs, on est en rapport les uns avec les autres. Et c'est un cadeau que Dieu nous a fait, et ce cadeau qu'il nous a fait nous met dans l'impossibilité de vivre pour nous-mêmes. Nous sommes tous sous le poids d'obligations mutuelles. On n'est pas séparés. Nous ne pouvons pas vivre indépendamment des autres. Le plan de Dieu, c'est que chacun se sente nécessaire au bien de tous. Et que chacun s'efforce de contribuer au bonheur de tous. C'est ça le plan de Dieu. Alors, je sais bien que ce n'est pas une doctrine, hein, mais c'est une réalité. On est tous entourés par une aura, si vous voulez, par une atmosphère qui nous est propre, chacun de nous. Cette atmosphère, ça peut être une atmosphère de foi, d'enthousiasme, de courage, d'espérance, d'amour, de joie. Ça peut être aussi une atmosphère collante de tristesse, de mauvaise humeur, d'égoïsme, d'arrogance et que sais-je. Ça peut être une influence qui est empoisonnée par un péché, je ne sais pas moi. En tout cas, mes frères et sœurs, que vous le vouliez ou pas, tous ceux que vous côtoyez subissent l'influence, les effets de votre atmosphère. On ne peut pas fuir cette responsabilité, c'est comme ça. Tout en nous exerce une influence sur les autres, tout. Nos paroles, nos actes, nos vêtements, notre comportement, même la tronche qu'on fait, même l'expression de notre visage, ça exerce une influence sur les autres, absolument. Alors, de l'impression que vous laissez autour de vous, découlent des conséquences, et puis elles peuvent être bonnes, puis elles peuvent être mauvaises. Alors, ce qui est terrible, cette personne, il n'y a que Dieu, en fait, qui peut mesurer l'étendue de votre influence. Il y a des choses qui sont arrivées sur cette terre, vous ne savez même pas, mais c'est à cause de votre influence. Des bonnes choses, mais peut-être aussi des mauvaises. C'est pour ça que David disait, « Mon Dieu, je te prie de pardonner les fautes que j'ai faites et que j'ignore. » Frères et sœurs, le caractère, c'est une puissance. Vous savez, le témoignage silencieux d'une vie consacrée, d'une vie sincère, d'une vie désintéressée, ça possède un pouvoir irrésistible. Vous savez, quand ceux qui prétendent servir Dieu se mettront à suivre vraiment l'exemple du Maître, quand ils montreront chaque jour en action qu'ils aiment Dieu, qu'ils aiment leur prochain comme eux-mêmes, et alors l'Église, là, elle commencera à avoir un pouvoir extraordinaire sur le monde. Parce que c'est vrai que l'influence, elle peut aussi être très destructrice. Les mauvaises impressions, ça peut ça peut produire chez les gens le doute. Voilà, alors le doute est jeté, alors après, ça prend la place d'un amour simple. Hein. Vous avez des gens qui s'aiment d'un amour simple, tout simple, puis il y a quelqu'un qui arrive avec une influence, et puis alors là, ça met des, ça fendit un peu tout ça, et puis ça détruit l'influence. Dommage, dommage. En tout cas, le diable, lui, rigole. Divise, il rigole. Frères et sœurs, il faut aller sur nos genoux. Il faut vraiment demander à Dieu la sagesse pour bien utiliser ce don que nous avons, ce don, l'influence. La Bible nous dit que Dieu envoie des anges, ils ont une mission pour nous, de veiller sur nous. Je crois que quand quelqu'un est en prière, alors il est beaucoup plus conscient de la présence des anges. Et quand nous serons, par exemple, conscients d'être tout d'un coup en danger de produire une mauvaise influence sur les autres, alors celui qui a déjà l'habitude de la prière, qui sait parler, mais qui sait aussi écouter Dieu, eh bien, il entendra les anges lui donner une inspiration pour certaines paroles, pour faire certaines choses, pour avoir certaines attitudes dans leur comportement. Mais encore faut-il avoir cette vie spirituelle. C'est capital de vie spirituelle, de prière. Il faut toujours être en communion avec Dieu, toujours. Il faut garder à la pensée que le maître peut revenir d'un moment à l'autre. Et si on garde ça à la pensée, ben je vous promets mes frères et sœurs, on sera toujours des bons et fidèles serviteurs. Pensez bien à ça. Que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt. Merci Seigneur. Merci de bénir mes frères et sœurs qui ont écouté ce court message et que cela puisse les aider, les bénir, les encourager. Avoir toujours une bonne influence partout là où ils vont. Dans le nom de Jésus, je prie. Amen.